Let's go.
Salut à tous et bienvenue pour la nouvelle version des podcasts Superphysique. Je serai aujourd'hui accompagné de Fabrice, le cofondateur de Superphysique, et de notre cher Street que vous connaissez tous désormais, membre de Team Superphysique. Alors dans cette nouvelle version des podcasts, nous allons traiter de plusieurs sujets. En première partie, nous allons revenir sur l'article « Êtes-vous fort ?» disponible sur le site et le commenter, voir si c'est toujours d'actualité. Nous répondrons ensuite à deux questions d'internautes qui nous ont été posées, à savoir comment respirer au soulevé de terre. On dérivera un petit peu sur la meilleure façon de respirer, pourquoi respirer de cette façon-là, pourquoi on est plus fort ainsi. Nous parlerons des dangers de la créatine, si elle a des dangers. Et enfin, nous finirons en vous donnant chacun un conseil pour améliorer votre entraînement ou votre alimentation pour devenir encore une fois un meilleur vous. Alors c'est parti. Donc Fabrice est l'auteur de l'article « Êtes-vous fort sur Superphysique » qui a maintenant 6 ans. Peux-tu nous rappeler ce qu'était cet article, Fabrice ?
Oui, alors bonjour à tous. En fait, cet article avait été écrit essentiellement pour deux raisons. Donc déjà, on avait fait une série de programmes d'entraînement sur le site qui concernait ce qu'on appelait les débutants, les intermédiaires et les personnes avancées en musculation. Et sauf qu'on avait beaucoup de questions de gens qui savaient pas vraiment se définir entre débutants, intermédiaires et avancés. Et donc du coup, cet article permettait un petit peu de les cadrer. Et d'autre part, il y a aussi quand on s'entraîne en salle, on n'est pas toujours dans des salles de passionnés et des fois, en faisant par exemple ne serait-ce que 10 à 80 au développé couché, on est rapidement le plus fort de sa salle et puis on peut avoir l'impression qu'on a déjà un niveau confirmé en musculation parce que par rapport aux membres de sa salle, on est fort puis on est le meilleur, alors qu'en fait la réalité est un petit peu différente. Donc c'était le pourquoi de cet article. Après, en termes de genèse, c'est-à-dire comment j'ai affecté les niveaux qui étaient donnés dans l'article, je me suis inspiré essentiellement d'un article de Stuart McRobert qui parlait du niveau avancé en musculation quand on avait atteint le level 300, 400, 500. L'idée c'était de dire quand on avait un développé couché de 300 livres, un squat de 400 livres et un soulevé de terre de 500 livres, d'après lui on commençait à avoir un bon niveau en muscu, puis on pouvait aller sur des programmes plus confirmés. Et donc, grosso modo, le niveau 300, 400, ce qu'il appelait le niveau 300, 400, 500, ça correspondait à un développé couché à 135 kg, un squat autour de 180 kg, puis un soulevé de terre autour de 225 kg. Et donc, moi, j'ai adapté dans cet article pour faire que ce soit en fonction du poids de corps, et j'ai un petit peu descendu les niveaux, et j'ai rajouté d'autres exercices, enfin, faire quelque chose de pas mal. Donc si vous allez dans cet article donc, qui est disponible sur le site, vous pouvez le trouver via le moteur de recherche en tapant « Êtes-vous fort ?» Et si après on prend par exemple un homme qui pèse 80 kg, voici ce qu'on obtient par exemple. Donc on a un niveau intermédiaire avec un développé couché entre 85 et 105 kg en maxi et un niveau confirmé avec un développé couché entre 126 et 140 kg. Donc si on prend le début du niveau confirmé, d'après l'article, donc ça nous fait, pour quelqu'un de 80 kg, un développé couché à 126, un soulevé de terre à 210, un squat à 170, puis un développé militaire à 85, pour quelqu'un de 80 kg. Alors évidemment, il fallait bien un critère. Il y a des gens qui sont très grands, il y en a qui sont plus petits, on n'a pas la même longueur au niveau des segments osseux ou alors les mêmes insertions musculaires. Et donc, chacun aura des variations. Mais comme on ne peut pas tout mettre ça dans l'article, je me suis basé sur le poids de corps de la personne, même si c'est très imparfait. Donc voilà en introduction. Alors toi, Rudy, 6 ans après, qu'est-ce que tu penses de ces chiffres par rapport à toutes les personnes que tu as coachées ? Est-ce que tu penses que 125 kg au coucher, c'est le début du niveau confirmé en musculation ? Qu'est-ce que tu en penses ?
Ouais, c'est sûr que moi, je me souviens de cet article, et même je me souviens à l'époque, tu as parlé de Stuart McRobert, mais en même temps, ça avait été vachement inspiré du forum où on avait plusieurs membres qui faisaient des grosses performances associées à un physique, je me souviens. J'avais écrit un article, je sais plus si t'es dispo, il est dispo super physique, mais en gros, on avait remarqué que quand tu faisais 130 à 140 de développé couché, et ben, t'avoisinais les 40 de tour de bras. Après, tu reparais en fonction de la grandeur de la personne, la longueur de bras, etc. On avait remarqué ça. Après, du point de vue de mes élèves, de mon expérience, effectivement, quand t'arrives à 125-130 au coucher pour 80 kg de poids de corps, soit un peu plus d'1,5 fois ton poids de corps, ça commence à être une bonne performance. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que je me suis basé pour faire les niveaux du club super physique, qui va bientôt être fait normalement, si notre super graphiste avance bien. Et donc, on se donne le niveau gold, qu'on appelle, qui est 10 fois 100 au développé couché, et ce qui correspond à peu près à un maxi à 130 kg, c'est-à-dire entre 125 et 135 kg suivant les personnes. Donc on voit bien que ça confirme bien. Encore une fois, on va prendre un exemple. Souvent, on nous reproche de mettre toujours les charges en avant, de prendre la technique, etc. C'est pas le cas, mais ce qu'il faut dire, c'est que quand on est à peu près fort sur une multitude d'exercices en série mi-longue, eh bien, on a une certaine masse musculaire. Par exemple, on a notre petit street avec ses petits bras. Ben, combien tu prends au curl street?
Au curl, je suis à 22, 24.
En curl incliné.
Ouais.
En série assez propre, etc.
Ouais, voilà. Bah, comme sur ma séance, pec biceps.
Combien à 24? Combien de répétitions tu fais?
Ah, bah, je monte encore à 20 reps, proprement.
Voilà. Donc, on voit, en fait, il faut une certaine performance en série, moyenne à longue pour obtenir un certain volume. Et en ce sens, c'est vachement important de savoir quel est son niveau pour savoir comment s'entraîner. Si vous débutez la musculation ou vous avez un niveau, débutant, voire limite intermédiaire, vous n'allez pas perdre du temps à faire 15 000 exercices par muscle. La priorité est déjà de construire une base solide derrière à exploiter ensuite, ce qui revient à dire qu'il faut se concentrer sur les principaux exercices, ceux qui sont le plus efficaces pour vous, et non pas se disperser en faisant multitude de techniques d'intensification parce qu'on a l'impression d'avoir tout donné. Mais l'article pour moi reste quand même bien à jour. D'ailleurs, il avait été repris, je sais pas si vous vous souvenez tous les deux, dans l'ouvrage Les tests de terrain d'Olivier Bollier et Aurélien Broussal. Et ils nous avaient demandé la permission en fait de mettre ce tableau-là dans leur livre, justement parce qu'ils le trouvaient bien également. Et pour information, donc c'est deux préparateurs physiques olympiques. Comme quoi, donc le tableau est quand même encore assez bon.
je rebondis juste sur ce que t'as dit parce qu'on m'a posé la question par mail par rapport au curl incliné. Alors le curl incliné, je le fais depuis 2010, il est dans mon programme depuis 2010, et si j'ai atteint cette performance, c'est justement parce que j'étais combatif dessus. Et après, de temps en temps, on se lasse, mais quand la performance est là, il n'y a pas de raison de
changer d'exercice. La performance associée au résultat en plus.
Voilà.
Donc tout ça parce que si tu fais du curl comme un gros sagouin et que tu prends pas de bras, bon bah là c'est sûr que ça vaut pas le coup.
Ouais, voilà, exactement. Ouais, bon là il est temps de changer, ça c'est clair.
Mais oui, donc c'était pour ça que l'article Aide-vous fort était là, pour permettre aux gens de situer leur niveau, donc avant la création du club superphysique, et de voir si vous aviez des faiblesses par rapport à ce que vous faisiez. Alors on nous a souvent reproché sur cet article de mettre le squat et le soulevé de terre un peu haut, mais ça c'est dû au fait que de plus en plus, de moins en moins de gens font du squat et du soulevé de terre de manière sérieuse et régulière. Donc forcément, bah, on est un peu en dessous là-dessus, et un peu plus sur les exercices de développé qui sont toujours mis en avant.
C'est même pire que ça, Rudy, c'est que maintenant que je fréquente les salles de muscu, souvent, tu peux même pas faire de squat ou de soulevé de terre. C'est-à-dire que t'as même pas l'emplacement pour faire du squat ou du soulevé de terre.
Bah si, ils font du curl dans la cage à squat.
Non, mais des fois, il y a même pas de cage à squat. C'est pas des blagues, hein. Il y a plein de salles où tu peux même pas faire du squat. T'es obligé de le faire au cadre guide parce que l'emplacement existe même pas, quoi.
Mais ouais, l'article est toujours très pertinent pour moi. En tout cas, c'est sûr que quand t'arrives, comme je disais en introduction, quand tu arrives à 130 kg au coucher pour 80 kg de poids de corps, en général, tu fais autour de 42 tours de bras, il n'y a pas de mystère. Hein. C'est toujours à peu près comme ça. Alors certains vont avoir un peu plus, d'autres un peu moins. D'autres vont faire 40 cm de bras un peu avant. Encore une fois, ça dépend de chacun, comme tu disais, des leviers osseux, des insertions musculaires, etc. Mais c'était une bonne moyenne pour permettre à chacun de se situer, donc d'avoir un bon niveau. Donc quand on arrive à peu près au niveau confirmé, bah, c'est là que l'entraînement peut basculer vers vraiment un entraînement type entraînement des points faibles, technique d'intensification, encore une fois pour les points faibles, diversification du programme, etc. Alors qu'avant, bah, on se concentre encore une fois sur la progression globale, sur les exercices les plus efficaces pour soi, et on évite de changer sans arrêt.
Ok.
Alors, on va attaquer donc la deuxième question. Donc, c'est une question d'une internaute sur le forum qui s'appelle Delphine. Comment apprendre à gérer parfaitement la respiration au soulevé de terre? On m'a conseillé de ne respirer qu'une fois la barre au sol, autrement dit entre chaque répétition, afin de, notamment de ne pas risquer de relâcher le gainage même en haut du mouvement. Cependant, si je ne reprends mon souffle qu'à ce moment-là, et que je ne respire qu'après la négative, j'ai rapidement la tête qui tourne. J'aimerais donc avoir votre avis et conseils sur la question. Si cela peut aider à répondre, il s'agit du soulevé de terre traditionnel, hanche plutôt haute. J'imagine que c'est moi qui réponds.
Ouais, non, mais en plus, moi, je comprends le problème qu'est le type. Par exemple, quand on fait du squat en série de plus de 10 répétitions, c'est vrai que si tu bloques ta répétition trop longtemps sur le mouvement, ce qui est normalement avec le gainage, normalement tu bloques la respiration pour favoriser le gainage, mais t'es rapidement essoufflé. Donc je vois bien, je comprends ce qu'elle signifie. Donc j'attends ta réponse, Rudy.
Bah, déjà, tu as donné le premier facteur, c'est-à-dire que si tu fais beaucoup de répétitions, le fait de maintenir un super gainage à moins d'importance, d'avoir un gainage très très fort à moins d'importance, parce que normalement, vu que la charge est assez légère, vu que c'est une série encore une fois assez longue, tu dois pouvoir maintenir un gainage approprié sans avoir besoin de le forcer à fond. Donc dans ce cas-là, tu peux respirer en haut du mouvement, Delphine, sans aucun souci. Encore une fois, le but, c'est pas de souffler comme un malade, c'est de respirer calmement. Parce que c'est l'une des erreurs que je vois le plus souvent, encore une fois, en salle, notamment depuis que j'ai la SP Gym, c'est que la plupart s'entraînent et bloquent complètement leur respiration du début à la fin de la série. Au point que certains, au bout de compter des répétitions, ou effectivement, ont mal au crâne, se sentent mal, vont vomir dehors, etc. On en a des fois qui
sont plus souvent. Arrête, il y en a qui vont vomir dehors, mais je
ouais, mais si. Je vais pas citer de nom parce que je sais qu'ils vont écouter le podcast, mais ils sont sortis dehors. Ils sont sortis dehors tout blanc, faisant semblant évidemment. Voilà. Si Delphine, tu as mal à la tête, à mon avis, c'est que tu fais des séries un peu longues, et dans ce cas-là, tu peux relâcher un peu ton souffle, ton gainage. Encore une fois, pas de manière trop forte, hein. Encore une fois, c'est une histoire de compromis. À l'inverse, si tu fais des séries assez courtes, là, dans ce cas-là, tu vas devoir vraiment bloquer ta respiration pour vraiment avoir le meilleur gainage possible et surtout ne pas arrondir le dos. Parce que dans ce cas-là, bah, l'exercice devient tout de suite moins efficace et beaucoup plus dangereux, ce qui n'est pas le but. Après, c'est assez simple, hein, y a pas grand-chose d'autre à dire de plus. Ce qu'il faut, c'est arriver à se crisper, à se gainer de là où il faut et pas tout crisper. Souvent, c'est vrai que là, c'est l'exemple du soulevé de terre, donc on contracte un peu tout, mais j'ai un autre exemple, c'est l'exemple de la presse à cuisse. Souvent, les gens font de la presse à cuisse et vont se crisper, serrer les dents, faire des grimaces, serrer les bras, tout serrer, au lieu de ne serrer, entre guillemets, que les cuisses pour pousser. Et dans ce cas-là, bah forcément, si tu te crispes de partout, tes besoins d'oxygène sont augmentés, et bah t'as vite mal au crâne. Donc là, dans ce cas-là, le conseil, c'est de se détendre un peu le haut du corps, rester souple du haut, et seulement tendu, si on peut dire, entre guillemets, du bas. D'ailleurs, Street, tu fais du soulevé de terre, toi, comment tu respires? Tu respires pas, je crois. Il a disparu.
Non, je suis là, ça a juste coupé, tu disais. Ah, c'est embêtant, mais...
Alors, je te demandais... Vas-y.
Je disais, toi qui fais du soulevé de terre, comment tu respires?
Ouais, alors, donc, partant de la première rep, je respire avant de prendre la barre en position, et je souffle pour monter, donc j'expire pour monter la charge. Une fois en haut, je prends la respiration, je bloque en descendant.
Ouais, donc tu respires en fait pendant à chaque fois, quoi.
Et je une fois en bas, en fait, une fois où il faut redonner l'énergie, je ressouffle.
Ouais, bah en fait tu bloques seulement par intermittence ta respiration pour éviter d'être asphyxié.
Voilà. Ouais, d'ailleurs ça m'est jamais arrivé d'avoir mal à la tête.
Ah bah c'est normal, tu forces pas, mais vu les charges que tu mets, c'est normal. Hein. Quand je vois 80 kilos sur la barre, vu ton dos, je suis déçu.
Hein. On aimerait bien le voir d'ailleurs au soulevé de terre.
Combien tu fais au soulevé de terre? Sur une jambe, il n'y a pas de souci.
Combien tu fais au soulevé de terre, Loïc?
Là, je suis nouveau à 170.
En coup série de combien?
Mais bon, ça. C'est vraiment mon max.
Combien de répétitions?
Là, je commence à tout doucement. Arrondir le dos et puis ça devient plus propre techniquement. Quoi.
On n'a pas entendu la réponse, ça a coupé.
Vous entendez encore?
C'est combien de répétitions tu fais au soulevé de terre, Loïc?
Bon, je crois que Luc a de gros problèmes de connexion.
Bon, on saura pas, ça sera confidentiel.
Vous m'avez pas entendu ?
C'est en série, c'est pas un maxi, évidemment.
Vous m'avez pas entendu ?
Non, l'homme fantôme.
Ah, c'est pas vrai.
Bon, question
suivante. Allez, enchaîne, Rudy.
Question suivante. Les dangers de la créatine. Donc, un internaute nous demande, qui s'appelle Dimi, que pouvez-vous nous dire concernant l'article qui a fait le buzz récemment relatant la hausse du cancer des testicules, c'est ceux qui prennent de la créatine. Donc, comme d'habitude, hein, ces articles sont là pour faire du buzz, tu l'as bien résumé, Dimi.
On sait. Vous m'avez dégâté.
On sait à présent que la créatine, du moins la forme créa pure, c'est-à-dire celle qui a un certain, une certain degré de pureté, n'a aucun effet secondaire tant qu'elle est prise encore une fois à la bonne quantité, à savoir à peu près entre 3 et 5 grammes par jour, divisé en plusieurs prises d'un ou deux grammes. Encore une fois, plus on divise sur la journée, mieux on assimile à prendre en cours des repas. Mais dire que la créatine a des effets négatifs sur la santé, aujourd'hui, c'est un peu dur à dire, sachant que beaucoup d'études montrent exactement l'inverse, à savoir des bienfaits sur la santé. Donc on connaît les effets sur le métabolisme énergétique. D'abord, ça va nous aider à faire plus de répétitions avec de lourdes charges. Ceux qui s'intéressent peuvent regarder l'article combien de temps de récupération faut-il prendre entre chaque série pour comprendre par exemple le métabolisme anaérobie lactique, où la créatine est le premier substrat énergétique en quelque sorte. On sait également que ça va aider donc à prendre du muscle en aidant à la prolifération des cellules satellites. On sait par exemple que ça va aider à oxygéner le cerveau, etc. Donc la créatine, encore une fois, il y a un excellent article sur le site qu'avait fait Julien, pour ceux que ça intéresse, et qui relate tous les effets, il y a tout de manière non exhaustive, mais la plupart des effets positifs sur la santé de la créatine. Encore une fois, s'il y avait des effets négatifs sur la santé, ça n'aurait pas été autorisé à la vente. Pour rappel, je crois que c'était 99 ou 2000, la créatine justement était interdite à la vente en France, parce qu'on pensait que c'était un produit dopant, que c'était pas bon, etc. Et finalement, comme on s'est aperçu qu'il n'y avait aucun effet secondaire, lorsqu'on prenait les bonnes doses, hein, mais encore une fois, c'est comme tout, hein, si vous mangez demain 2 kg de viande par jour, ça ne va pas aller bien, même si elle est bio, ou vous mangez 3 kg de cerises, ça va mal se passer aussi pour vous. Encore une fois, la quantité fait le poison. Mais donc, il n'y a vraiment aucun effet secondaire à prendre la créatine, vraiment que des effets positifs, tant qu'on respecte les doses, les bonnes quantités, et qu'on prend une créatine de qualité, de préférence, la créa pure, qui est le label qualité numéro 1 dans le monde. Quelqu'un veut rajouter quelque chose?
Oui, il y a la créatine, tu sais, il y a différents types.
Après, tu as toujours différents types, mais donc tu as la créatine monohydrate créa pure, comme je disais, qui est normalement le label numéro 1, et après, régulièrement, tu as différentes formes de créatine qui sortent, hein, un peu à la mode, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, mais à l'époque, on regardait, il y avait la créatine, voilà. La créatine phosphate, directement qui était vendue comme ça, parce que c'est comme ça qu'on la retrouve a priori dans le corps humain. Il y avait la créatine effervescente, je me souviens que ça existait aussi, tu mettais dans de l'eau et hop, ça faisait effervescent. Soi-disant, c'était mieux assimilé que la créatine créa pure, alors que c'est déjà assimilé à je sais plus combien de pourcents, pratiquement à 100%. Tu avais la créatine éthylester, où il y a eu des études, pareil, là ce coup-ci, qui ont montré des effets négatifs sur les reins. Donc là, ce coup-ci, c'était pas à prendre à la légère. Mais à chaque fois, les vendeurs de suppléments, qui a les marques de suppléments, essayent de trouver la nouvelle forme de créatine super sans qu'il y ait d'études derrière, c'est ça le pire en fait, et promettent un peu n'importe quoi, du mensonge. Hein. Mais en gros, si vous voulez faire les choses bien, n'allez pas chercher midi à 14h, la créatine créa pure en plus, ça coûte que dalle, créatine monohydrate créa pure. Donc restez là-dessus parce que les autres formes de créatine, il n'y a toujours aucune étude, il n'y a vraiment rien du tout, c'est pas documenté. On cherche toujours en fait à vous vendre la poudre de perlimpinpin sous couverte de nouveautés, mais
ou l'ultra pure chez Citec qui a son propre label qualité.
Ouais, après chaque marque va avoir son label souvent et va donner en même temps son analyse de sa créatine pour vous garantir une certaine pureté. Ça c'est. Après, je donnais l'exemple de la créa pure parce que c'est le plus connu, mais normalement chaque marque assez sérieuse hein, encore une fois parce qu'il y a des marques qui ne vont pas vous donner les labels de qualité, la composition, l'analyse faite par le laboratoire indépendant normalement. Là, dans ce cas-là, essayez de fuir. Hein. Pourquoi prendre une créatine sans sans label de qualité quand on voit le prix hein. En général, je n'ai pas les prix en tête, mais en gros, ça a coûté 20 euros 500 grammes, donc pas 500 grammes à 5 grammes par jour, ça fait plus de 3 mois. Donc,
je voulais juste rajouter, justement, j'ai préparé une newsletter sur le sujet parce que récemment je suis tombé sur un article d'un médecin qui.
On l'entend plus.
On ne saura pas quel était cet article.
De l'année dernière. Donc, c'était sur un site santé. Alors, comme quoi, même encore à l'heure actuelle, on peut lire tout et n'importe quoi au sujet de la créatine.
Bah, de toute façon, le but, c'est toujours de faire du buzz. Hein. La plupart des gens qui font des sites ou même des articles, etc., le but à chaque fois, c'est de faire du buzz, pas d'informer dans le bon sens ou pas, c'est d'être vu, etc., pour te vendre un truc en plus, etc., pour la publicité.
Bah regarde, l'année dernière, Florent Manodou a annoncé qu'il prenait de la créatine pendant sa période d'entraînement et tous les journalistes ont repris le titre pour leurs articles, comme si ça avait une importance.
Comme si c'était incroyable.
Ouais, voilà.
Alors que, concrètement, disons-le clairement, hein, qu'on en prenne ou pas, on sait même pas si on sent une vraie différence. Donc, c'est juste que comme les études montrent un effet, bah, on en prend vu que c'est pas très cher. On se dit au moins, on est bon, il n'y a pas de souci. De là à sentir un effet faramineux, encore une fois, c'est pas un stéroïde, hein, c'est pas une hormone. Donc ça reste un supplément.
Oui, c'est-à-dire qu'au temps où la créatine elle était sortie en France, il y avait, je sais pas quoi, des rugbyman ou des gens comme ça qui justifiaient des fois les kilos qu'ils avaient pris par l'usage de la créatine. Mais bon, c'était pas nécessairement grâce à la créatine. Oui, voilà. Des fois, la créatine avait bon dos.
Ouais, elle avait beaucoup d'effets incroyables.
Oui.
Ok.
Donc, maintenant, on va passer aux trois conseils qu'on va vous donner, chacun personnellement. Donc je te laisse commencer, Fabrice, quel est ton conseil du mois?
Vas-y, non, bah, Loïc plutôt, vu que moi c'est un conseil diététique, donc pour histoire de changer, comme on vient de parler de créatine. Vas-y Loïc, donne-nous ton conseil.
Ouais, d'ailleurs je sais pas si ça a été cité, puisque je n'ai pas entendu la moitié de ce que vous avez dit, vu qu'apparemment Skype n'a pas envie de m'entendre. C'est bien pour les végétariens, ceux qui mangent très peu de viande, de se supplémenter en créatine. C'est bien de le rappeler parce que justement on en retrouve essentiellement dans la viande, donc pour ceux qui en mangent pas du tout, c'est le moment de penser à en ajouter dans la diète.
Ah, surtout encore une fois vu le prix. Alors Loïc,
ouais, alors
quel est ton conseil du mois pour devenir comme toi?
Alors moi je vois essentiellement sur le forum des gens qui posent des questions sur leur programme en fonction de leur diète. Alors bon, on a déjà parlé à maintes reprises, mais apparemment c'est toujours bon de le répéter. Donc par rapport au nombre de répétitions, donc c'est souvent ça le problème apparemment. Donc que ce soit en sèche ou en prise de masse, encore une fois, le nombre de répétitions n'est pas censé diminuer ou bon, augmenter, ça je l'ai jamais vu, mais souvent, je vois des programmes de pratiquants qui demandent si, parce qu'ils ont réduit, ils doivent passer à 6 reps, 5 reps, 4 reps sur certains exos. Alors, c'est pas totalement faux dans le sens où si au développé couché, on n'arrive plus à progresser à 10 reps, à 10 répétitions, donc là, on peut tout doucement...
décidément
pétition. Mais de là à diminuer tous les exercices à 8 répétitions, mais il n'y a aucun intérêt parce que dans 3 semaines vous serez tous à, je sais pas, au cœur incliné si les reps sont effectués dans un mois vous êtes à 22 kilos et vous n'arriverez à rien du tout. Donc il faut impérativement tenir le nombre de répétitions comme on l'a noté sur les différents articles du site, hein, où on met à chaque fois donc l'exercice à côté entre parenthèses, on met le nombre de répétitions mini et maxi. Donc le but c'est toujours de progresser, d'arriver à 15 répétitions ou 20 répétitions au cœur incliné, et ça que ce soit en période de régime ou en prise de masse, parce que sinon la progression sera nulle et vous serez très rapidement bloqué.
C'est vrai que souvent on voit conseiller, malheureusement, et même faire, hein, pour les personnes qui sont en sèche, des séries plus longues avec moins de temps de récupération, alors que justement, quand tu es au régime, d'ailleurs Loïc, tu m'as annoncé que tu allais faire ta première sèche cet été. Info ou un tox.
Mais je suis déjà sec. C'est là toute l'info.
Donc c'est vrai qu'on voit souvent, quand les gens sont en sèche, qu'ils font des séries plus longues avec moins de temps de récupération, parce qu'ils veulent plus de détails, mieux couper leurs muscles, etc., comme si ça allait le faire, alors que justement, comme tu es au régime, bah, tu as moins d'énergie, et que si tu prends moins de récupération et que tu allonges tes séries, bah, tu perds une force monstre, et c'est la meilleure façon, en plus, après, de perdre du muscle, parce que tu fais beaucoup plus de travail, tu es plus sujet à être surentraîné, à moins bien récupérer, et c'est pas en faisant plus, beaucoup plus, en réduisant le temps de récupération, que tu vas maintenir au mieux tes muscles. À l'inverse, si vraiment tu es cuit, bah, mieux vaut réduire légèrement ton nombre de répétitions ou alors augmenter légèrement ton temps de récupération entre deux exos. Je crois que Loïc a disparu.
C'est pas grave, t'as bien résumé son propos, Rudy.
C'est bien ce que je pensais. Il est de retour.
Ah bon, bordel.
J'ai résumé ta pensée, Strip.
Ouais, très
bien. J'ai dit que t'allais faire une sèche jusqu'à 72 kilos.
Jusqu'à l'anorexie, tu veux dire.
Voilà. Donc voilà, surtout, quelle que soit la période, ne changez pas votre nombre de répétitions, ne diminuez pas votre temps de récupération. Chaque changement dans votre programme doit être calculé, et quelle que soit la période de l'année dans laquelle vous vous trouvez, vous soyez en prise de masse ou en sèche, comme l'a dit Street, le but est encore une fois de progresser, de devenir un meilleur vous, et non pas croire qu'en changeant d'entraînement d'un coup, vous allez avoir des muscles apparaître, des détails apparaître, qui ne seraient pas apparus. Encore une fois, les détails, c'est juste que vous avez plus ou moins de muscles. Si vous avez plus de muscles, il y a plus de détails que si vous en avez moins. C'est simple que ça. Fabrice, quel était ton conseil? Alors,
je change.
Ah, tu changes de conseil?
Je change mon conseil. En fait, je vais aller dans le prolongement du conseil précédent, parce que vous avez dit qu'il fallait pas changer les temps de repos, ou au contraire, il faut plutôt les allonger. Et donc, du coup, mon conseil, ce sera d'emmener un chronomètre à la salle et de chronométrer ses temps de repos. Alors, ça peut paraître un conseil idiot, mais encore une fois, vu que maintenant je fréquente les salles, je regarde un petit peu comment s'entraînent les gens autour de moi, et il y a personne, en fait, qui chronomètre ses temps de repos. Les gens font des séries au feeling. Donc, d'ailleurs, en général, c'est plutôt des temps de repos qui sont assez courts pour ceux qui tapent pas la discussion et assez longs pour ceux qui tapent la discussion. Et donc, du coup... Non, mais c'est vrai. Donc, j'ai déjà vu des gens qui prenaient 10 minutes de repos parce que, voilà, ils font du smartphone puis discutent. Et à l'inverse, ceux qui parlent pas puis qui sont concentrés dans leur entraînement, ils prennent des temps de repos de 45 secondes pour pas s'ennuyer ou pour rester dans le... pour rester concentré, je pense, c'est ce qu'ils pensent. Sauf que voilà, avec des temps de repos aussi faibles, c'est très difficile de progresser. Et puis, avec des temps de repos qui sont pas constants, on peut pas mesurer sa progression de séance en séance, etc. Donc si j'avais un conseil à donner, ce serait de pas hésiter à se chronométrer, c'est même impératif. Si on veut avoir des séances qualitatives et homogènes de séance en séance, il faut chronométrer ses temps de repos.
Et d'ailleurs, à ce sujet, on a une application gratuite sur Android et sur iPhone qui s'appelle Super Physique Chrono, avec mes magnifiques phrases de motivation. Du style Kamehameha.
Il arrive même à placer de la pub pour une application gratuite.
Voilà. Elle est gratuite. Hein. Et elle m'a coûté des sous. Alors utilisez-la à bon escient.
Ok, alors, à toi Rudy, voilà, ton conseil.
Mon conseil, donc on l'a un peu abordé dans ce podcast, c'est surtout de rester simple. Moi, ce que je vois, encore une fois, je reçois beaucoup de questions, etc. Et à chaque fois, je vois des programmes compliqués, des exercices à n'en plus finir, style on fait 6 exercices pour les pectoraux, dont 4 en superset, et puis on finit par des séries dégressives, et puis là, tiens, je finis par des pompes surélevées, etc. Enfin, je vois des trucs assez invraisemblables. Alors que la musculation pour progresser, c'est assez simple, comme on l'a dit. En fonction de notre niveau, il y a des bases très simples à respecter. On choisit une base de départ. La base de départ, ça peut être les exemples de programmes sur Superphysique, qui sont là exprès, qui sont des exemples de programmes que vous pouvez faire. Et ensuite, petit à petit, en progressant sur les exercices qui sont dans les programmes, progresser et changer un exercice si cela ne va pas, changer le programme petit à petit, progressivement, pour continuer encore une fois à prendre du muscle, à prendre de la force, etc. Mais surtout, éviter de faire des programmes compliqués. Plus le programme est compliqué, plus je vais progresser Au contraire, on l'avait vu sur le forum d'ailleurs à l'époque, hein, qui s'appelait Smart Weight Training à l'époque, ceux qui avaient l'entraînement le plus compliqué, c'est ceux qui progressaient le moins. Petite dédicace à Vincent, à DX, et même à Plasma à l'époque. Ceux qui avaient l'entraînement vraiment très très compliqué, du style, je faisais de l'explosif super slow, je sais pas, des trucs à dormir debout, ben ils progressaient pas. Alors qu'à l'inverse, ben, celui qui faisait, par exemple, ses biceps, il faisait 2-3 exercices, il se contentait de progresser un peu à chaque séance, ou du moins, il faisait tout ce qu'il pouvait pour, et ben petit à petit, un an après, et ben il avait des bras plus gros que l'autre du Gus qui avait fait des trucs à dormir debout.
La base, quoi, comme tu l'avais dit avant.
Voilà, restez simple, hein, encore une fois, il n'y a pas vraiment de secret pour atteindre un niveau avancé, donc il y a le niveau gold, pour ceux qui ne veulent pas aller dans l'article être bouffoir, faire leur calcul, mais il y a le niveau gold sur superphysique.tv, il n'y a pas de secret, hein. Les exercices les plus efficaces pour vous, en général, bah, c'est ceux qui sont polyarticulaires de base, ceux qui vont étirer vos muscles, etc. Je pense qu'on en parlera dans un prochain podcast. D'ailleurs sur un article qui va bientôt sortir que j'ai fait. Mais voilà, évitez de vous compliquer, ça rime à rien. Je vois encore une fois des fois des programmes faits par des gens, je sais pas d'où ils sortent, ils se disent coach ou je sais pas quoi. Des programmes à dormir debout du style, encore une fois ouais, des trucs, des exercices, ceci, des trucs, ouais des trucs hyper compliqués quoi. Alors que si on l'avait su, hein, Fabrice, dès le début qu'il fallait pas faire compliqué, où est-ce qu'on en serait aujourd'hui?
On en a
testé.
C'était justement un autre défaut. Il y avait ceux qui faisaient des programmes trop compliqués, et puis il y avait ceux comme moi qui changeaient de programme régulièrement. C'est pareil, on peut pas progresser en changeant tout le temps de programme. Voilà. Et oui, on a tout testé pour vous.
Ben, c'est vrai. Donc, on en parlera la prochaine fois de quand faut changer de programme, parce que cette histoire de choquer ses muscles, hein, ça commence à m'énerver un petit peu, hein, ça n'existe pas. Et comme l'a dit Street en plus tout à l'heure au début de podcast, c'est pas en changeant sans arrêt d'exercice qu'on devient bon sur un exercice et qu'en plus on va prendre du muscle. Ça va surtout nous faire perdre du temps, le temps de se réadapter, de relancer sa progression, etc.
Puisqu'en changeant d'exercice, il faut à peu près, surtout quand on est débutant, il faut un mois de pratique, je sais pas, sur n'importe quel exercice, histoire de commencer à être à l'aise, d'appliquer la technique correctement, de s'être corrigé. Donc si au bout d'un mois on change déjà d'exercice, ce qu'on voit fréquemment en plus, c'est impossible de performer dessus.
Ouais, non, mais si ça vous intéresse, chers internautes, n'hésitez pas à poser la question pour qu'on développe le sujet. C'est un sujet qui nous passionne.
Totalement.
Ok. Donc, je fais le résumé du podcast, si vous le voulez bien. Donc, si vous voulez savoir quel est votre niveau en musculation, avoir une bonne idée, savoir si vous êtes fort, si vous avez un niveau avancé, intermédiaire ou débutant, et donc du coup quel programme d'entraînement également il vous faut sur Superphysique, consultez l'article « Êtes-vous fort ?». Il est toujours d'actualité. Concernant la respiration au soulevé de terre, eh bien, selon le nombre de répétitions que vous allez faire, il faudra bloquer plus ou moins votre respiration. Mais il ne faut pas évidemment la bloquer tout le temps, sinon vous n'allez plus pouvoir respirer. Troisième point, est-ce qu'il y a des risques à prendre de la créatine? Eh bien, il n'y a pas de risque connu si on en prend des quantités normales, c'est-à-dire quelques grammes par jour, et il faut mieux privilégier la créatine labellisée Créa Pure ou alors celle qui est labellisée par les marques connues. Ensuite, le conseil de Loïc du jour, c'était de ne pas modifier son programme d'entraînement, que vous soyez en régime de sèche ou en régime de prise de masse. Normalement, vous allez faire le même nombre de répétitions et vous efforcer de progresser à chaque séance, comme d'habitude. Il ne faut pas réduire les temps de repos ni allonger les séries. Le conseil de Rudy était de rester simple dans vos entraînements, c'est-à-dire de ne pas aller vers des exercices trop compliqués ou de faire des programmes qui sont trop compliqués puis qui s'éloignent de la base, parce que contrairement à ce que vous pensez, vous ne progresserez pas plus vite, mais au contraire plus lentement. Et mon propre conseil, qui était dans la lignée des précédents, était de chronométrer vos temps de pause de façon à avoir des séances qui soient toujours homogènes en termes de qualité et de performance, de façon à mesurer votre progression d'une séance à l'autre de manière pertinente. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce résumé?
Parfait.
Pas du tout.
Bon.
Bon, bah super. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, pour cette nouvelle version de podcast, à poser vos questions. C'est sur le forum Superphysique, donc www.superphysique.org, puis la rubrique podcast. n'hésitez pas. Donc chaque mois, on prendra, on espère, dans l'ordre, à moins qu'il y en ait vraiment beaucoup, on prendra dans ce cas-là les plus généralistes, qui peuvent concerner le plus de monde, vos questions. On y répond, comme vous voyez, dans la bonne humeur, on est content, ça nous fait plaisir, donc n'hésitez pas. Et sur ce, j'ai plus qu'à vous souhaiter donc un bon entraînement, une bonne diète et de bons progrès, et on se retrouve dans un mois pour un nouveau podcast.